Bonjour. Fondements philosophiques de l'éthique en santé, cours de David Jousset. Ce commentaire audio est associé au diaporama qui sera commenté diapo par diapo. Nous allons donc aujourd'hui découvrir quelques éléments de sensibilisation à la réflexion éthique qui concernent l'ensemble des personnes qui se forment au métier du soin au sens large, c'est-à-dire non seulement les médecins, mais tous les praticiens qui prennent soin de la personne dans les différents types de soutien à la santé. Donc c'est un cours pour débutants, on va dire, mais qui se veut une sensibilisation à des démarches un peu profondes de la réflexion éthique, qui j'espère sera prolongée dans votre formation universitaire et puis plus largement dans votre pratique professionnelle. Je passe à la diapo 2. Donc ce cours est en deux parties. Nous allons d'abord réfléchir dans l'introduction sur pourquoi est-ce qu'on propose de l'éthique du soin dans les études de santé et en conséquence chercher à définir ce qu'on appelle l'éthique du soin par une focalisation progressive et en rappelant quelques éléments de l'historique et parvenir donc à poser des questionnements contemporains qui traversent la société, notamment dans ses rapports à la médecine. Deuxième partie, nous essayerons de mieux comprendre quels sont les principes qui permettent de réfléchir en éthique et de voir comment ils se relient aux pratiques effectives. Donc on prendra un exemple qu'on va travailler ensemble pour mieux comprendre aussi le fait que c'est une démarche de réflexion personnelle et collective qui ne peut pas simplement appliquer des principes théoriques. Donc en troisième partie, nous verrons justement les différents types de liens qu'il y a entre les situations qu'on rencontre dans la pratique, dans la clinique, et puis les concepts qu'on peut utiliser de la philosophie. Alors tout d'abord, une première question qui peut me venir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de l'éthique dans la première année des études en santé ? Cette interrogation, on peut la décomposer en disant mais qu'est-ce qu'on appelle l'éthique ? Qu'est-ce qu'on appelle l'éthique du soin, l'éthique médicale ? Et puis, après tout, comment la faire ? Comment la pratiquer ? Est-ce qu'il y a des méthodes ? Donc on va voir que le but de ce cours, c'est de s'initier à ce que la philosophie peut apporter comme médiation pour apprendre un questionnement méthodique, un questionnement qui n'est pas seulement intuitif ou spontané, et qui vous aide dans votre formation pour devenir des praticiens qui soient heureux, qui soient, on va dire, fiers de leur pratique, et qui aient un certain sens du professionnalisme. En effet, le professionnalisme, c'est des savoirs, des savoir-faire, mais aussi un certain savoir-être, un certain épanouissement dans son travail. On passe à la diapo numéro 4. Donc pour cela, il faut d'abord définir l'éthique. Donc définir l'éthique par une définition qui soit assez transversale. Alors je propose cette définition très large. L'éthique, c'est donc une réflexion à la fois qui peut être d'un individu, d'un groupe ou d'une institution sur le sens, la finalité ou la valeur de ce qu'elle vit, de sa façon d'exister. Donc c'est une réflexion très large, en particulier qui porte sur la question du bonheur et qui a en Occident un ancrage, un enracinement profond dans la philosophie morale. Donc il y a une dimension théorique de l'éthique, et puis on va le voir, il y a aussi une dimension pratique, puisqu'il y a plein de formes d'éthique qui se consacrent à des domaines spécialisés, comme par exemple l'éthique de l'économie ou de l'environnement, dont on parle beaucoup actuellement. Diapo numéro 5. Alors maintenant, si on cherche à préciser l'éthique du soin, on va dire que l'éthique du soin, c'est une réflexion sur l'action soignante, et qui, de même que on l'a vu pour l'éthique en général, va porter sur la finalité de l'action. Donc par exemple, pourquoi réanimer une personne après une tentative de suicide ? Poser la question en termes de pourquoi, c'est chercher quel est le fondement, la raison de notre action. Deuxièmement, ça peut porter sur les normes du soin. Donc par exemple, comment doit-on respecter l'intimité d'un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes ? Donc quels sont les devoirs que l'on a en tant que soignant ? Ou encore, cette réflexion peut porter sur les qualités, c'est-à-dire par exemple, jusqu'où dois-je m'impliquer, dois-je me dévouer, jusqu'où suis-je responsable de la santé de mon patient, ou de la personne que j'accompagne, que je soigne. Donc on voit bien qu'ici, il s'agit d'une réflexion plus large sur finalement quel est mon idéal dans ma pratique. Diapo numéro 6. Alors cette notion d'éthique du soin, elle est souvent reliée à d'autres notions, comme la notion de bioéthique par exemple. La notion de bioéthique a été inventée par un cancérologue américain, Potter, en 70, en fusionnant deux racines, la racine du mot grec pour dire la vie, bios, et une autre racine grecque qui signifie davantage la façon de vivre, ethos. Une façon de vivre qu'on reconnaît comme étant ce qu'on doit vivre, c'est-à-dire qui devient finalement une obligation. Et on peut dire qu'en latin, on a la même évolution où le mot mos veut dire d'abord une habitude, puis devient une tradition, une norme de vie. Donc la bioéthique, c'est l'étude des questions qui touchent au vivant et qui sont posées par l'évolution technique, technologique, notamment dans la science biologique, dans les biotechnologies. L'éthique médicale, elle, est très différente puisqu'elle a une spécificité, à savoir, elle porte sur une pratique, la médecine, dont je rappelle non pas l'étymologie, mais la racine profonde dans notre civilisation indo-européenne, la racine MED, M-E-D, qui signifie à la fois la méditation, mais aussi le moyen d'agir de façon réfléchie. Donc, je redéfinis la médecine comme un agir, pas seulement des actes, mais une façon d'agir, qui a une base scientifique, plusieurs sciences, mais qui vit surtout la remédiation des altérations de la vie humaine. Donc qui peut être une médecine préventive comme une médecine curative. Et qui en lui s'inscrit elle-même dans le soin, au sens d'une action plus générale portant sur la personne humaine dans sa globalité. Donc, par exemple les soins palliatifs qui ne portent pas seulement sur la santé corporelle. Donc voilà pour spécifier un peu le domaine de l'éthique du soin. Si on passe maintenant à diapo numéro 7, je vous propose un petit texte d'Hippocrate que chacun pourra lire. Et ensuite, j'interroge les participants pour voir quels sont les principes ou les valeurs éthiques qui émergent dans ce texte. À la diapo numéro 8, je précise toute la différence qu'il y a avec le code de déontologie de l'ordre des médecins, puisque là, on n'a plus de référence, on va le voir, à une éthique transcendante, appuyée notamment sur des références religieuses. C'est un code qui a été élaboré au XXe siècle, essentiellement avec une définition de la mission de la médecine, on le voit au service des individus de la santé publique, et puis également une exigence de respect des principes de moralité, la difficulté étant que ces principes ne sont pas forcément définis par le code, donc on suppose une morale commune, une morale générale. Donc il y a tout un travail là de critique qu'on peut faire des textes, y compris des textes aussi fondateurs que le serment d'Hippocrate ou le code de déontologie médicale. Diapo numéro 9. Dans les éléments historiques, on peut rappeler également que donc il y a non seulement on a vu une éthique médicale implicite, donc depuis l'Antiquité chez Hippocrate, on l'a évoqué également une philosophie morale qui se développe là aussi depuis l'Antiquité chez Aristote, à la même époque Hippocrate, puis chez des auteurs médiévaux comme Saint Thomas, ou modernes comme Spinoza, ou encore contemporains comme Kant. Mais surtout, je rappelle que l'éthique du soin, l'éthique médicale, s'est beaucoup développée suite à la Seconde Guerre mondiale, au procès de Nuremberg, suite à des scandales de santé, notamment aux États-Unis, avec le rapport Belmont 79, et on va dire une production américaine très importante sur laquelle on va revenir, de textes majeurs au XXe siècle, mais également en France avec des auteurs comme Lévinas ou Paul Ricoeur qui ont développé cette éthique du souci de l'autre qui a un rôle très important dans le dialogue et dans la délibération actuelle. Diapo numéro 10. Je termine donc cette première partie en rappelant que si on pratique l'éthique, c'est parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a eu des conflits, on va dire des scandales de santé, parce qu'il y a une attente également par rapport de la part de la population. On peut le rappeler à quelques points, on peut dire que le contrat de confiance entre la médecine et la société, ou entre la société et l'ensemble des professionnels du soin au sens large, et on va dire ce contrat de confiance est un peu altéré. On s'interroge quel est le meilleur modèle pour la relation entre le soignant et le soigné. Pendant longtemps, le soigné était relativement considéré comme passif, voire comme infantilisé. Et maintenant, on a une autorité de la parole médicale qui est en tension avec d'autres sources de discours, notamment sur Internet, de la part également d'associations de patients, de la part d'autres acteurs de la santé. Et en parallèle, s'est développée une attente sociale de santé qui est très importante, avec cette idée de santé parfaite. C'est l'idée que la médecine, notamment, aurait pour mission de garantir la santé, voire de garantir une vie indéfinie. Donc voilà quelques éléments de questionnement contemporain auxquels la médecine et en général les professions de soins doivent se confronter. Nous passons maintenant à la deuxième partie, donc diapo numéro 11. Nous allons maintenant réfléchir aux principes philosophiques qui permettent d'éclairer les pratiques soignantes, qui supposent de distinguer ce qu'on appelle la pratique. Donc la pratique, on l'a vu un peu tout à l'heure, que la notion d'agir, c'est une action qui se réfléchit, à travers laquelle une liberté va se former. On devient praticien en pratiquant. On distingue cela de la clinique, qui est de l'ordre d'une pratique, mais qui est aussi de l'ordre d'un savoir qu'on acquiert en pratiquant, c'est-à-dire en soignant, au contact du soigné. Donc l'interrogation qu'on se pose ici, c'est quel peut être le rapport entre la réflexion et la pratique dans l'éthique soignante. Diapo numéro 12, on va voir un premier modèle qui est que les principes sont comme des hypothèses qu'on va appliquer ensuite à la réalité. Dans un premier modèle, on part de règles générales, puis on en déduit finalement des décisions concernant des cas singuliers. Diapo numéro 13, cela correspond par exemple à un ensemble de principes éthiques. Alors on a évoqué le texte américain de Beauchamp et Chadress, 77, pardon, qui est très important, et qui contient un ensemble de principes, comme par exemple le principe du respect de l'autonomie. Un principe majeur en éthique actuelle. On peut évoquer d'autres textes, comme celle de Ancionas, qui parle d'un principe de responsabilité pour l'autre en tant qu'il est vulnérable à mon action. On voit qu'il y a différents principes éthiques généraux qui peuvent être appliqués ainsi. Diapo numéro 14. Un deuxième modèle, c'est une démarche qui part du bas, entre guillemets, qui part des situations, des cas, ce qu'on appelle une éthique casuistique. Et cette éthique cherche à remonter depuis les situations vers des justifications de la décision. Elle est en particulier développée dans le cadre d'une éthique clinique, inspirée par le pragmatisme nord-américain parfois, et elle est également développée dans l'éthique du care, qui signifie le soin, prendre soin de quelqu'un, qui a beaucoup émergé dans les années 90, et qui vise au-delà du corps, de prendre soin du monde en tant qu'il est vulnérable. Alors on peut faire une critique de ces deux types de modèles. Diapo numéro 15. La première critique, c'est que, concernant le principisme, donc la démarche par les principes, c'est qu'on n'a pas forcément tous les mêmes principes. On supposerait une morale universelle, mais il peut y avoir une pluralité de convictions, comme le dit le sociologue Max Weber, il y a des valeurs multiples, comme un polythéisme, nous croyons en plusieurs dieux. Voilà, il y a différentes visions du monde dans la société contemporaine. Et puis, par ailleurs, le principisme s'appuie sur des principes généraux qui ne sont pas forcément adaptés à la singularité des situations. Réciproquement, on peut critiquer l'éthique casuistique, l'éthique des situations, en disant qu'elle risque de partir sur des façons de faire, des habitudes qu'on ne va pas forcément critiquer et qui vont manquer d'universalité, qui ne sont pas forcément applicables à toutes les situations, tout le contexte. Et on risque aussi d'avoir une approche un peu relativiste, l'exemple de l'excision qui est intégrée dans certaines mœurs sociales, alors qu'on pourrait considérer qu'il y a une norme de protection du corps au nom des droits de l'homme qui s'impose et qui doit dépasser finalement la façon dont ce cas est pratiqué dans telle coutume. Diapo numéro 16. C'est pour ça qu'on a une troisième voie possible qui cherche à dépasser les limites de première, qui est développée en particulier par le philosophe français Paul Ricoeur, avec une définition de l'éthique qui est très importante, et surtout avec une démarche qui est indiquée dans le tableau, où on voit qu'on part non seulement de fondements, éthique fondamentale, donc par exemple la sollicitude, comme souci d'autrui, on passe par une deuxième dimension, qui est une dimension de normes, donc une dimension où on va se contraindre à respecter des devoirs qui viennent finalement encadrer notre désir éthique, et puis on passe à une troisième dimension qui cherche à concilier parfois les conflits qu'il peut y avoir entre les principes qu'on voudrait faire et puis les devoirs qu'on doit respecter. Donc c'est un exemple de modèle pour dépasser finalement l'opposition des deux premiers modèles qu'on a vus tout à l'heure. Diapo numéro 17. Dans la troisième partie, on essaie de voir un peu comment ça se met en œuvre, justement en tenant compte de la réalité des situations cliniques, mais aussi en tenant compte du fait qu'on va utiliser des concepts qui sont complexes, qu'on doit pouvoir redéfinir. Diapo numéro 18. On part de la distinction qu'on peut faire entre différentes formes de questionnement. S'interroger devant un cas sur qu'est-ce que je dois faire, c'est une interrogation technique. Si on se pose une question de type est-ce que j'ai bien fait? C'est plutôt une question de type un dilemme moral ou un cas de conscience, voire une forme de culpabilité. Alors que la démarche ici qu'on me propose, c'est une démarche de problématisation, c'est-à-dire qu'on va chercher à réfléchir finalement qu'est-ce qui est mis en question en moi, qu'est-ce qui est relancé comme réflexion, qu'est-ce que je dois approfondir. Et on doit pouvoir essayer d'exprimer cela, par exemple, sous forme d'une tension entre différentes thèses, différentes tendances, différentes positions. Donc ça renvoie à la racine même du mot problème qui signifie relancer une recherche. Alors pour cela, on peut prendre un exemple, diapo numéro 19, avec donc une situation d'urgence critique que je vous laisserai donc découvrir, et qu'on analyse ensuite en se disant, ben voilà, pour comprendre cette situation, il va falloir qu'on ait un concept, en particulier une notion d'autonomie, auquel on peut avoir, qu'on a à l'esprit pour pouvoir justifier voilà, de ce qui est en jeu dans cette situation. Diapo numéro 20, la notion d'autonomie est présentée dans sa complexité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens, il y a une polysémie, parce qu'il y a plusieurs conceptions d'autonomie. Donc c'est ces différentes conceptions qu'il faut pouvoir utiliser pour comprendre voilà, pourquoi, par exemple, la patiente dans la situation peut avoir une compréhension de sa situation, l'autonomie cognitive, mais beaucoup de mal à se décider, à agir conformément à son intérêt, une autonomie décisionnelle qui est altérée par l'angoisse, peut-être par des antécédents dans ce contact avec le corps médical. Et donc il y a comme ça une tension autour de l'autonomie qui est particulièrement mise en valeur, notamment dans le cas des maladies neurodégénératives. Donc on pense par exemple à la maladie d'Alzheimer, et je fais référence à un travail philosophique sur la maladie d'Alzheimer dans les notes. Diapo numéro 21. Je rappelle dans la démarche pour problématiser, c'est une démarche où il faut au moins distinguer ce qui s'observe, les faits, ce qu'on peut mesurer, les connaissances qu'on peut avoir objectives, distinguer cela des sujets qui sont impliqués. Et ces sujets ont des demandes, ils ont des besoins, ils ont des intérêts. Et dans les sujets, il y a aussi des soignants qui sont impliqués. Et puis distinguer aussi cela des affects. On voit que l'angoisse, par exemple, peut avoir un rôle très important. Ce sont des indicateurs de réflexion éthique. Ils sont à réfléchir, à intégrer aussi dans la réflexion. Diapo numéro 22. La problématisation ensuite suppose souvent de se donner différents scénarios, en se disant, voilà, si je prends telle décision, quelles seront les conséquences pour ce patient dans cette situation singulière. C'est appliquer un principe de proportionnalité, d'adaptation de la réflexion à la situation. Et puis il faut clarifier donc ces différents scénarios, ces alternatives, et pouvoir ensuite travailler sur la justification. Une grande partie de la réflexion éthique consiste à accepter qu'on ait une certaine incertitude, une forme d'inquiétude, mais que l'on puisse au moins dire au nom de quoi on va agir, dans tel sens, avec quel principe, quelle valeur, pour défendre quels intérêts, en cherchant quelle finalité. Diapo 23, je termine en disant que la démarche éthique, c'est donc une façon de se questionner sur sa pratique, accepter de se mettre en question, accepter d'être mis en question par le réel, qui est toujours plus complexe que ce qu'on peut en penser, mais c'est s'ouvrir en même temps à une façon d'être, à une façon d'être qui nous rend vraiment humains. Habiter le questionnement comme la façon qu'on a d'ouvrir l'avenir de l'humanité. Donc vous trouverez ensuite dans la diapo 24 l'ensemble des références des textes qui ont été utilisés, et dans la diapo 25 vous aurez une bibliographie indicative qui se veut progressive pour pouvoir se former à la réflexion éthique.